Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui pour un nouveau Step Story, je suis avec Toinon Georget, CEO de Prospectin. Salut Toinon.
Salut Bastien.
Écoute, merci d'être là avec moi pour ce podcast qu'on enregistre à distance parce que toi t'es basé à Montpellier avec l'équipe de Prospectin.
C'est ça, ouais. On est à distance avec des petites difficultés techniques sur le micro.
Mais bon, on arrive quand même à pas mal se débrouiller. Voilà, donc Prospectin, c'est un outil d'automatisation pour LinkedIn que tu vas pouvoir me détailler dans 15 secondes. Avec toi, dans ce Step Story, on va parler du coup de Prospectin, l'entreprise sur laquelle t'es à temps plein, à 100%. Mais au-dessus de ça, il y a une maison mère qui s'appelle Wapi, c'est bien ça ?
C'est ça.
Dont Prospectin est un des produits. Donc, avant qu'on vienne vraiment sur l'activité et sur le produit, je vais te laisser introduire Prospectin en 10-15 secondes et ensuite, je vais te laisser te présenter comme d'habitude.
Ok. Je m'appelle Toinon, j'ai 23 ans et je suis CEO de Prospectin. Donc, Prospectin, c'est un outil d'automatisation pour LinkedIn qui va vous permettre de créer des séquences transactionnelles, comme c'est fait par email en fait depuis des années, avec un système de relance, mais directement sur LinkedIn. Donc, c'est la fonctionnalité qu'on appelle scénario. Et vous allez, par exemple, pouvoir envoyer un follow sur LinkedIn, puis une demande de connexion et un certain nombre de relances par message.
Voilà, tout ça automatisé avec tellement d'outils et tellement de fonctionnalités, tous en un, dans un seul produit, qu'on va voir tout à l'heure. Et c'est ça un peu qui fait la magie de l'outil de Prospectin et que c'est vraiment efficace. Alors, est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps ça existe, Prospectin ?
Alors, nous, Prospectin, le produit Prospectin, il est passé en bêta gratuite fin juin, début juillet, et il est commercialisé seulement depuis le 2 septembre.
Voilà, donc c'est toujours assez récent, mais tu vas pouvoir me parler un peu de la traction que vous avez actuellement tout à l'heure, parce que c'est quand même assez intéressant, je pense que vous en êtes assez fiers. Mais avant ça, moi, je vais te laisser te présenter ton profil, ce que tu as fait avant, c'est ton premier projet ou pas, comment tu as déboulé dans l'entrepreneuriat, etc.
Ouais, alors comme je l'ai dit, j'ai 23 ans, donc j'ai pas une grande expérience et une longue histoire à raconter. J'ai fait Polytech Montpellier, donc une école d'ingénieur. Au milieu de ma troisième année, j'ai commencé à travailler sur un projet avec un de mes associés qui avait rien à voir, qui était le projet Wapi. C'était une application de conciergerie pour les hébergements touristiques.
Okay.
Donc rien à voir du tout. L'idée, c'était de dématérialiser l'accueil en proposant tous les services et toutes les informations qui sont habituellement à l'accueil d'un hôtel ou d'un camping, directement sur une application. C'était parti d'une expérience perso dans un camping où j'avais noté que d'un côté, on avait des clients qui étaient particulièrement insatisfaits parce qu'ils n'avaient pas l'info et le service qu'ils voulaient au moment où ils voulaient. Et de l'autre côté, on avait une équipe qui était désorganisée et pleine de frustration parce qu'elle n'arrivait pas à communiquer l'info et le service au bon moment, au bon client. Ouais. On a travaillé dessus pendant un peu plus de 2 ans. Et courant mars, on a eu besoin d'accélérer notre développement et on voulait trouver des clients sur LinkedIn. Et on a commencé à faire un petit peu de veille sur les outils qui existaient et on a trouvé DuckSoup, LinkTelper. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils qui nous permettaient de créer des séquences comme on voulait faire, de prise de contact avec des hôtels et des relances automatiques. Donc on a commencé à développer l'outil en interne juste pour nous. Et en parlant un petit peu dans notre réseau entrepreneurial, on s'est rendu compte que il y avait pas mal d'entrepreneurs qui étaient intéressés par ce produit et donc on a développé une version pour la commercialiser qu'on a mis en bêta fin juin et maintenant qui est commercialisée sous le nom de Prospectin depuis le 2 septembre.
Ok, donc toi, si je résume en 10 secondes, toi, tu as toujours développé des applications ou des services pour tes besoins personnels ou pour des besoins tiers. Donc ça, c'est un peu ton esprit maker, si tu veux. Et Prospectin, ça déboule d'un besoin en interne qui, in fine, s'est retrouvé commercialisé parce que tu t'es rendu compte de la popularité du truc, quoi.
Exactement. En fait, courant juillet, on regarde un petit peu nos stats, on est censé être en pleine saison, l'activité Wapi avec l'application de conciergerie donne pas des KPI très intéressants, et de l'autre côté, on a une traction vraiment impressionnante sur Prospectin, on a des super retours utilisateurs,
ouais.
Et vu qu'on est une petite équipe de 4 personnes à ce moment-là, on dit qu'on peut pas affronter les deux projets de front, et donc on choisit de pivoter complètement
de
et
tout
de
focus
mettre
sur
toutes nos forces sur Prospectin.
Okay.
Exactement.
Alors, tu l'as dit dans ton récit, aujourd'hui, pour n'importe quelle entreprise, faire de la prospection et de l'acquisition, il y a deux moyens. Bon, on va dire qu'il y a deux moyens. Soit on a déjà nos clients, il y a un peu de bouche à oreille, on sait vers quel marché se tourner. Soit on fait de la prospection et aujourd'hui, l'outil le plus puissant en B2B, c'est clairement LinkedIn. On est d'accord ou pas ?
Oui, je pense que LinkedIn sur le B2B, c'est un canal indispensable. Disons que pendant un temps, le cold emailing a assez bien fonctionné.
Mmh.
Aujourd'hui, il est vachement saturé. Et donc, ça marche encore, mais il faut se différencier, bon, comme toujours, mais il faut être meilleur. Et aujourd'hui, tu as un nouveau canal qui est LinkedIn, qui est particulièrement efficace, qui n'est pas encore saturé. Et surtout, tu vas pouvoir plus facilement atteindre ta cible. parce que l'entrepreneur, le CEO que tu essaies de contacter par email, sa boîte mail est peut-être gérée par quelqu'un d'autre et il y a un fort taux de spam. Alors que sur LinkedIn, tu vas vraiment avoir un contact direct et il va pouvoir voir ton profil, tu vas avoir une façade de ce que tu fais. Et donc, tu vas pouvoir éveiller sa curiosité beaucoup plus facilement qu'un simple email, même bien écrit.
Carrément. Alors, aujourd'hui, donc, tu m'as même un peu parlé des premiers users. Comment vous vous êtes fait connaître aux 100 premiers, si tu veux?
Ouais, je pense que la force de ce que nous on fait, c'est qu'on est nos premiers utilisateurs de notre outil. On utilise notre outil pour vendre notre outil. Donc, ça nous permet de développer les bonnes fonctionnalités au bon moment. Tout simplement, on a commencé à prospecter avec notre propre outil pour vendre notre outil. Donc, on a ciblé différents personas, les recruteurs, les bizdev, les CEO, les cofondateurs de start-up. On a tapé un peu large et on est allé prospecter. Et disons que quand tu résous un problème comme celui qu'on résout et que tu as une bêta gratuite, tu as vraiment des feedbacks super positifs et les gens, les prospects sont super compréhensifs.
Y a pas,
et donc,
ouais.
ils te donnent des retours ultra quali. Et tu commences à créer une communauté autour d'un produit.
Surtout qu'il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Apparemment, à partir du moment où on a un service gratuit qui nous est mis à disposition pour le tester et que ça ne nous coûte rien, et là, on va rebondir là-dessus. Alors, Prospectin, c'est une extension pour navigateur. Donc, ça prend littéralement 10 secondes à installer, c'est bien ça?
C'est ça. C'est
donc,
même la force du
voilà,
produit.
Voilà, c'est la force du produit. Donc, quand on a quelque chose dans les mains qui est gratuit, qui a l'air efficace, qui en plus, on va en parler, mais ergonomiquement, c'est simple, c'est facile, c'est rapide. Effectivement, ça pour vous c'était un facteur clé de succès dans le sens où c'est pas galère d'aller chercher vos premiers users, tu vois. Surtout quand tu utilises ton produit d'automatisation pour toi-même, tu vois, c'est un comble.
C'est ça, bah oui, ça c'est un comble. Je pense que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça, même si c'est vachement intéressant d'être son propre user, parce qu'en fait, même dans notre roadmap de développement actuel, c'est hyper intéressant de voir comme les fonctionnalités qui nous sont demandées sont celles qui sont systématiquement dans la roadmap de la prochaine mise à jour.
Ouais.
On fait une mise à jour à peu près toutes les 3 semaines, et en fait, quand on sort une nouvelle mise à jour, on résout un certain nombre de problèmes des utilisateurs, et les nouvelles fonctionnalités qui nous sont demandées sont celles qui sont déjà en développement pour la prochaine mise à jour.
Ouais.
Un exemple tout bête, actuellement on développe un troisième pricing plan que j'aurai l'occasion d'expliquer après, qui est une offre entreprise. C'est quelque chose qu'on nous demandait quasiment jamais avant de commencer à le développer. Et là, ça fait 3 semaines qu'on travaille dessus et ça nous est demandé quasiment tous les jours.
D'accord. Ok. Donc vous avez un peu anticipé ça, si tu veux?
C'est ça, exactement. On a la capacité, en utilisant notre propre outil, de développer les fonctionnalités que nos utilisateurs nous demandent, en fait.
Ok. Alors maintenant, on parle de fonctionnalités depuis tout à l'heure. Je vais te laisser, si tu veux, m'étaler le catalogue de fonctionnalités que Prospectin propose tout en un. Alors, soit tu me fais tout ton catalogue et puis tu me fais juste simplement ton catalogue, après moi je rebondis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Prospectin, c'est un outil qui a tout en un, c'est-à-dire que ça mélange DuckSoup, LeanMail Pro, Phantom Buster, ça fait tout en un, si tu veux. Donc je vais te laisser m'expliquer un peu tout ça, cette arborescence de fonctionnalités, et après moi je rebondirai là-dessus. Donc je te laisse un peu, si tu veux, m'étaler tout ce qui est possible de faire aujourd'hui avec Prospectin.
Ouais. Prospecting, comme j'expliquais, le postulat de base, c'est de pouvoir faire une séquence, donc un scénario transactionnel qui va envoyer des invitations et des messages à des prospects jusqu'à ce qu'ils répondent. Ça, c'est le postulat de base. Autour de ça, tu as un certain nombre de fonctionnalités qui viennent s'agrémenter. Donc évidemment, tu peux envoyer de manière individuelle des visites de profil, des connexions, des messages directement à tes prospects. Donc en fait, le fonctionnement, c'est que tu vas faire une recherche LinkedIn. Donc c'est là que tu vas qualifier tes leads. Tu vas faire ta recherche filtrée et tu vas exporter tes prospects. Donc l'extension va scanner toutes les pages et va mettre tes prospects dans ton back-office à partir duquel tu vas pouvoir tout gérer. Le postulat par rapport à des extensions comme DuckSoup, c'est que nous, on voulait proposer un outil de prospection où tu peux avoir un suivi de ce que tu fais, où tu vas pouvoir vraiment un outil dédié à la performance commerciale. Et donc, on a créé toute une interface où tu vas pouvoir donc envoyer ces demandes d'invitation, ces demandes de messages, mais tu vas pouvoir suivre les performances de tes campagnes, faire facilement des tests AB, donc tu vas créer des listes. Par exemple, j'ai différentes cibles, les recruteurs et les CEO. Je ne vais pas les mettre dans la même campagne. Je ne vais pas les adresser avec le même message. Et derrière, sur mon tableau de bord, je vais pouvoir suivre quel profil, quel persona transforme le mieux.
Voilà, alors là,
ça, c'est un...
je me permets de rebondir, ouais, excuse-moi, parce que là, vraiment, c'est un point perso, c'est moi, c'est ce qui a fait la différence pour moi. Aujourd'hui, avec DocSoup, comme tu l'as dit, c'est pareil, on va sur LinkedIn, on tape le mot-clé du poste de la personne qu'on cherche à accrocher, si tu veux. Là, c'est à ce moment-là qu'on qualifie le prospect. Avec DocSoup, on va simplement faire activer, bon, ça fait un mois que je dis plus DocSoup, mais en gros, on va activer, on va demander, il va nous mettre 100 personnes maximum. Ça, on parlera de la sécurité tout à l'heure, mais il va nous mettre 100 personnes, mais on aura 1, aucun suivi, 2, aucune statistique, et on peut pas, si tu veux, mettre de côté ces personnes pour les chercher ensuite. Là, ce que tu as dit, c'est qu'avec Prospecting, tu tapes, donc par exemple, tu tapes co-founder, tu tapes BizDev Junior, tu tapes ce que tu veux, tu dis à Prospecting combien de profils tu veux exporter, 200, 250, 400, dans quelle liste, donc tu crées une nouvelle liste, et donc en fait, tu peux exporter des profils à aller accrocher plus tard. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé 10 listes, si tu veux, avec 400 personnes dans les 10 listes, et aujourd'hui, j'ai même plus à aller sur LinkedIn pour accrocher parce que j'ai juste à me connecter tous les jours et à faire play. Tu vois, donc ce fait de pouvoir avoir un stock, si tu veux, et en plus de l'aspect statistique, ça c'est un truc que DocSoup ne propose pas du tout. DocSoup, c'est basique. Moi, si tu veux, on l'a dit dans l'épisode précédent avec Benoît Dubos de Grooster, c'est aujourd'hui DocSoup pour moi c'était super, tu vois. Ça remplissait mon besoin de ouf. Moi j'avais besoin de contacter des personnes et d'avoir des réponses de ces personnes, rien de plus. Par contre, quand on m'a donné la possibilité d'aller plus vite, plus facilement, de faire du stock, donc de gagner du temps et d'avoir un suivi, donc des statistiques, le changement, bah, de toute façon, tu le sais toi non, il a été radical. Tu vois, donc ça c'est vraiment un point vraiment 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 super intéressant de Prospecting, de pouvoir créer des listes, faire du stock, avoir un suivi, vraiment.
C'est ça. Bah, hier j'ai un utilisateur de DocSoup qui est venu nous voir sur le support client et qui m'a dit qu'il avait déjà contacté 30 000 personnes avec DocSoup, qu'il avait visité quasiment 200 000 profils et qu'il voulait passer chez Prospecting parce que les outils qui existaient avant comme DocSoup ou LinkTelper, c'est un peu, moi ce que je dirais, des outils de pirates. Et qui sont hyper efficaces à l'époque où ils ont été créés parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Et donc, le but, c'était de pouvoir automatiser les envois d'invitations sur LinkedIn. Mmh. Mais là, on est à un autre niveau où nous, notre postulat, c'est de dire qu'il y a de plus en plus de gens, de startups qui ont des besoins de développer leur business grâce à LinkedIn. Et on doit proposer un outil qui doit démocratiser cette automatisation, qui doit la rendre simple, ergonomique et efficace. Ça ne peut plus être un outil de pirate où tu dois bidouiller un petit peu, où tu as une partie aléatoire. Mm-hmm. Ça doit être un vrai outil, comme il existe des outils pour faire du mailing, mais pour faire ta prospection commerciale. Donc ça implique une notion d'ergonomie, une notion de sécurité et une notion de gain de temps maximal, en fait.
Carrément. Et même dans l'exécution, si tu veux, moi je me souviens de DocSoup, c'est DocSoup, quand tu lances DocSoup, donc par exemple tu vas dans recherche, tu tapes co-founder, tu lances DocSoup, en bas à droite il y a une petite fenêtre qui apparaît et tu vois dans la petite fenêtre les profils qui sont visités, la note qui est en train d'être entrée, qui est validée. Si tu quittes cette page, DocSoup s'arrête, tu vois. Avec Prospecting, tu peux exporter ta liste, lancer Prospecting, donc après tu vas m'en parler, il y a un petit onglet file d'attente, tu vois, et après tu peux faire ce que tu veux sur LinkedIn. Il faut simplement, mais comme n'importe quel outil, qu'il y a toujours une fenêtre LinkedIn ouverte. On est d'accord?
C'est ça, tu vois, exactement.
Vas-y.
Ouais, en fait, j'allais dire qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi sur la notion de sécurité, mais il y a cet aspect ergonomique où, voilà, même quand tu fais ton export de prospects avec Prospecting, tu peux faire ce que tu veux, tout fonctionne en arrière-plan, et donc ça, c'est un des points au niveau de l'UX et de l'expérience utilisateur. Mmh.
Moi, j'ai pas
souhaité mettre en avant.
Quand j'étais DocSoup, j'avais toujours deux onglets LinkedIn pendant que ça travaillait. Parce que le premier était bloqué, si tu veux. Et après, j'avais mon deuxième onglet. Aujourd'hui, avec Prospecting, je m'en tape, quoi. J'ai lancé Prospecting, je sais que ça tourne. Tant que l'onglet est ouvert, je sais que ça tourne. Je peux faire ce que je veux sur LinkedIn. Tu vois?
C'est ça. Et on a des utilisateurs qui viennent nous voir et qui nous demandent de pouvoir modifier les quotas journaliers. Donc, j'en ai pas parlé, mais dans la notion de sécurité, on a la possibilité de mettre des quotas journaliers qui sont déjà prédéfinis, qui font que tes actions s'exécutent toutes seules jour après jour. Et dès que tu as atteint tes quotas, la file d'attente est repoussée au lendemain. Et les utilisateurs de DocSoup viennent nous voir pour nous dire « Oui, je voudrais modifier ci, modifier ça. » Et en fait, nous, notre positionnement marketing, c'est de proposer un outil qui laisse pas la place à l'erreur. Donc, comme tu disais, si tu quittes la page DocSoup, tout s'arrête. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est qu'il n'y ait pas de place à l'erreur pour notre utilisateur. Et notre persona, c'est pas vraiment le gros hacker qui a l'habitude des outils d'automatisation, mais plus la personne qui souhaite automatiser et qui veut pas rencontrer de difficultés et qui veut pas avoir la place à l'erreur pour faire des mauvaises séquences et pour, en fait, diminuer au final la qualité de son compte LinkedIn et potentiellement rater des prospects ou en tout cas échouer dans sa prospection.
Voilà. Je t'avais coupé tout à l'heure quand tu me parlais de la possibilité des listes et de cette fonctionnalité. Je te laisse continuer la présentation de l'outil.
Oui, On a fait les fonctionnalités principales. On va dire qu'après, il y a pas mal de choses qui viennent s'agrémenter. C'est que tu vas pouvoir importer des CSV si tu as déjà une liste d'URL LinkedIn que tu as pu récupérer sur HubSpot, sur un autre outil, directement sur des outils d'enrichissement comme Cold CRM. Donc là, il y a un gain de temps. Dans l'autre sens, tu vas pouvoir exporter les emails. Donc, tu vas pouvoir récupérer une base d'emails de tous les prospects que tu as contactés et qui t'ont accepté.
Ah, bah ça,
LinkedIn
tu vois,
rend public cet email.
Tu vois, j'ai essayé de le faire pour moi hier. J'ai déjà 2340 prospects depuis que j'utilise il y a une semaine. Ça fait une semaine que je suis sur Prospecting. Donc, j'ai pu contacter 700 personnes, du coup, un peu moins. Mais par exemple, je voulais exporter tous mes résultats. Et j'ai pas. Tu vois. Ah non,
t'as pas trouvé la fonctionnalité.
En fait, si tu veux, je voulais pas. Alors là, je suis dans campagne et je vois exporter tous les prospects dans un CSV. Ok, mais moi, je voulais exporter tous mes prospects d'un coup dans l'onglet prospects. Tu vois?
Oui, en fait, depuis l'onglet campagne, tu peux exporter tous les prospects d'un seul coup, uniquement la campagne en question ou uniquement la campagne en question avec les filtres appliqués.
D'accord,
donc,
ok.
Par
donc
exemple,
tu peux pas faire tout d'un
tu
coup.
Peux dire, je veux exporter que les personnes à qui j'ai déjà envoyé un message.
Ok, donc en fait, l'export, il est pas total débile, si tu veux. Il est en fonction des filtres, en fonction des listes.
Tu choisis, tu as les trois options.
D'accord, ok. Ok, d'accord, c'est cool.
Après, pour le reste des fonctionnalités, on est sur des choses qui sont, on va dire, assez basiques, mais en fait, on vient proposer le tout en un de quelque chose qui s'approche un petit peu d'un CRM en très simple, sur lequel tu suis l'évolution de tes prospects. Et je vais revenir sur la notion de scénario,
ouais.
Où en fait, tu vas pouvoir vraiment créer des séquences complètes et tu as pu à te prendre, à réfléchir à ce que tu vas faire demain et à programmer tes relances, puisqu'en fait, tes relances se font toutes seules. Donc, par exemple, je vais choisir au jour 1 de visiter le profil de mon prospect. À J plus 1, je vais aller lui envoyer une demande d'invitation. S'il m'accepte, un jour après m'avoir accepté, je vais lui envoyer un premier message de relance. Puis, s'il a vu mon message mais qu'il ne m'a pas répondu, bah, 3 jours après, je vais pouvoir lui envoyer un autre message
de
relance.
Ça, c'est balèze.
Et du coup, tu n'as plus du tout à te préoccuper des délais et tout ça. Et ce que tu fais, c'est que tu peux lancer tes campagnes littéralement pour un mois et n'avoir juste à passer que 20 minutes par jour sur ton compte LinkedIn à répondre à tes prospects.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée du produit.
Voilà. Et en plus de ça, donc il y a un onglet, donc c'est le premier onglet qui s'appelle tableau de bord dans Prospecting, si tu veux, où on voit toutes les performances. Donc on peut voir performance de toutes les campagnes ou par campagne sur 7 jours, 14 jours, 1 mois, 3 mois. Donc on voit le taux d'acceptation. On voit aussi toutes les demandes en cours, si tu veux, qui ont été envoyées. On peut même supprimer toutes les invitations en attente supérieures à une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Tu vois, on voit aussi des statistiques comme le nombre de fois où notre profil a été visité ces 3 derniers mois, etc., etc. Et on peut même suivre, si tu veux, l'activité hebdomadaire des tâches qu'on a faites. Par exemple, aujourd'hui, je peux voir combien de demandes de connexion j'ai envoyées, combien hier, combien ont été acceptées hier, etc. Tu vois, par exemple, je vois que moi, hier, le 9 décembre, j'en ai envoyé 96. Il y en a 89 qui ont été acceptées et 4 personnes qui m'ont répondu. Tu vois, ça c'est une stat que je te sors. Par exemple, le 8.
Taux d'acceptation.
Alors ouais, par contre le 8, j'en ai envoyé 89, et j'en ai une seule qui m'a accepté et 3 qui m'ont répondu.
Ouais, parce que c'était dimanche. Mais tu peux mesurer comme ça l'activité
voilà.
Des
prospects
aussi.
Et le 7, j'en ai envoyé 100, il y en a 57 qui m'ont accepté, 3 qui m'ont répondu. Donc on peut suivre vraiment en temps réel et ça avec DocSoup, c'est impossible. Et pourtant, c'est la base en fait de pouvoir faire du tracking, tracking de data,
c'est
tracking, c'est la base de la base. Donc voilà.
Et tu peux même aujourd'hui tester des notes différentes sur la même campagne, utiliser deux notes différentes et voir laquelle fonctionne le mieux.
Vas-y, je vais te laisser un peu expliquer créer une campagne, créer des notes, explique un peu ça.
Ouais, bah après, je sais pas si c'est très intéressant à l'audio parce qu'il n'y a pas de
très
visuel.
Très rapidement.
C'est ça. En fait, il y a une notion de segmentation de persona, tu l'as super bien expliqué, où tu peux choisir de cibler les CEO en France qui sont dans des boîtes de moins de 100 personnes, puis de l'autre côté, les responsables marketing de gros comptes. Et tu vas créer, sur DocSoup, je crois que c'est une notion de tag, nous, c'est une notion de campagne, c'est-à-dire que tu vas avoir différentes listes de prospects que tu vas adresser avec des notes et des messages différents. Et dans la même campagne, tu peux choisir d'avoir différents messages, différentes notes et différents scénarios. Et tu as les statistiques sur chacun de ces éléments, chaque note, chaque message. Et donc, tu vois lesquels transforment le mieux. Et tu peux très facilement faire des tests A/B pour savoir quelle est l'approche qui marche le mieux. Par exemple, nous, on a fait un énorme test sur plusieurs comptes, sur à peu près 8000 envois d'invitations pour savoir s'il valait mieux envoyer une note ou ne pas envoyer de note.
Okay.
Et on prépare une étude de cas là-dessus. On se rend compte qu'en fait, envoyer une note ou ne pas envoyer de note, la différence est très faible.
Ah bon?
Essentiellement, en fait, t'as pas beaucoup de différence parce que la plupart des gens qui mettent des notes, c'est des approches commerciales et donc il y a pas mal de refus aussi.
Ouais.
Et on s'est rendu compte que le meilleur taux d'acceptation, c'était une note très simple. C'était « Bonjour Bastien, je souhaiterais rejoindre votre réseau ».
Ok.
Et c'est là que le scénario prend aussi tout son sens. C'est que du coup, tu peux faire cette approche où tu n'expliques pas du tout ce que tu veux, ce que tu attends du prospect et ce que tu peux lui proposer. Et derrière, il va t'accepter et tu vas pouvoir lui faire une relance automatique à plus 24
Donc, il n'y
heures,
a pas
plus
cette
48
réticence,
heures.
en fait. Ce que tu es en train de me dire, c'est que quand tu mets un message super long avec trop de mots, etc., la personne ne va pas forcément t'accepter ou transformer parce qu'elle va voir que, pas tu l'agresses, mais elle va être en position de... Elle va être réticente un peu. Alors que si tu mets tout simplement un message basique comme « Salut Bastien, est-ce que je peux rentrer dans ton réseau? » Elle va t'accepter et ensuite, tout le scénario se déclenche plus facilement. Tu vois? C'est ça,
C'est
en fait.
ça,
Ça
exactement.
élimine, si tu veux, pas la peur, mais pas la prudence, mais cette réticence à accepter.
Disons, la réticence à accepter et à savoir que derrière, c'est une démarche commerciale
Voilà, c'est ça.
et que tout le monde n'aime pas se faire démarcher non plus.
C'est ça. Alors, avant de parler maintenant de l'équipe, je pense qu'on a bien parlé de l'outil, je pense qu'on a bien parlé des fonctionnalités. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur le fonctionnement de Prospecting, sur l'essence même du produit?
Sur l'essence même du produit, non, ça va toucher aussi à la culture de ce qu'on est en train de faire nous, mais on est un petit peu, on est très tech dans l'équipe, je vais venir après, et
Ouais.
du coup, on a la mentalité un peu growth hacker, et ce qu'on aimerait, nous, c'est proposer des outils comme on a fait là, qui démocratisent le growth hacking, en fait, qui permettent à une personne, un biz dev un peu lambda, qui a pas des compétences tech, qui est pas un pirate qui va manipuler LinkTelper, de mettre en place des stratégies d'acquisition avec des outils de growth hacking.
Ok.
Et
Vas-y.
donc là, on prépare une nouvelle offre qui va permettre de faire du multi-compte très facilement avec une gestion des doublons entre les comptes. Et donc, on va pouvoir proposer ça à des équipes commerciales où il n'y aura pas la possibilité de démarcher deux fois la même personne. Ils pourront gérer plusieurs comptes depuis la même interface, copier les campagnes d'un compte à un autre, etc. Et donc, en fait, ça va permettre à certaines startups, par exemple aujourd'hui, quand tu as quatre fondateurs, tu vas pouvoir affecter tes quatre comptes à la prospection, et donc tu multiplies par 4 ton volume de
Ok,
génération de
c'est
lead.
pas mal ça. D'accord. Et donc ça, c'est un truc qui va arriver dans... Ce sera un nouveau pricing plan.
C'est un truc qui va arriver à la rentrée de janvier. Ouais.
Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un aparté de 1 minute vraiment sur la sécurité, sur les quotas que LinkedIn impose, les quotas journaliers? Et tu peux me dire en 1 minute comment Prospecting, si tu veux, s'adapte à ça. En 1 minute.
Ouais, en 1 minute, c'est très simple. La plupart des outils manipulent le code source de LinkedIn, ce qui laisse des traces. Et c'est pour ça que des extensions comme LinkTelper se sont fait bannir, c'est qu'elles laissent des traces et donc elles mettent à risque les comptes des utilisateurs. Et nous, en fait, on fonctionne en arrière-plan. Donc on ne manipule pas du tout le code HTML de LinkedIn, ce qui fait qu'on est complètement indétectable. Et on a mis des sécurités sur les scripts qui détectent les extensions. Donc de ce côté-là, très technique, c'est impossible pour LinkedIn de détecter l'utilisation d'une extension, enfin de la nôtre en tout cas, sur nos utilisateurs. Et ensuite, on va mettre un certain nombre de comportements aléatoires qui vont simuler le comportement humain. Donc, par exemple, les actions sont faites entre 2 et 3 minutes, toutes les 2 à 3 minutes, avec un délai aléatoire de plus ou moins 20%. Chaque jour, tu vas avoir un certain nombre d'actions que tu peux envoyer, qui sont entre 80 et 100 connexions, par exemple,
Ok.
qui sont des quotas que nous, on a déterminés en interne en faisant beaucoup de tests pour savoir qu'est-ce qui mettait à risque ou non les comptes. On sait aujourd'hui que tu peux monter à 110, 120. Nous, on met une sécurité, on dit à nos utilisateurs, vous inquiétez pas, vous êtes entre 80 et 100 par jour, donc il n'y a aucun risque pour votre compte.
La garantie
Et
vraiment,
en...
excuse-moi, je te coupe, la garantie
Ouais,
vraiment,
là,
et ça tu
vas-y.
avais eu l'occasion de m'en parler, c'est qu'il n'y aura jamais de souci de ban avec un user prospecting. C'est ça aussi que t'envoies.
Si l'utilisateur n'utilise pas d'autres outils ou n'envoie pas d'invitation à la main, il n'y a aucun risque. Là, on a passé les 3 000 utilisateurs en base de données et on n'a aucun compte qui a été banni. Donc, on a vraiment cette notion de sécurité qui est importante pour nous. Et au-delà de ça, en fait, par exemple, si tu envoies un certain nombre d'invitations à la main, LinkedIn, avant de te bannir, il va te mettre un petit avertissement. Et en fait, nous, on est capable de détecter quand est-ce que LinkedIn trouve que tu envoies trop d'invitations. Et automatiquement, ton compte prospecting va se mettre en pause pendant 48 heures avec une petite alerte.
Ok.
Et nous, on va être alerté et on va pouvoir aller vérifier s'il y a vraiment un problème ou pas.
D'accord.
Et pour te dire, c'est une sécurité qu'on a mise depuis le début. Et depuis qu'on est commercialisé au 2 septembre, il n'y a aucun utilisateur qui a rencontré ce problème-là. Donc ça veut dire que aujourd'hui, c'est vraiment sûr. Et on a aucun risque de détection par
Ok,
LinkedIn.
donc chez vous, il y a vraiment des process qui vous permettent d'assurer la sécurité de vos users, et ça, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quoi, on l'a bien compris.
Ça fait partie de notre positionnement marketing. À partir du moment où tu démocratises l'automatisation, tu as des biz dev, tu as des commerciaux qui viennent et qui attendent un produit comme de l'emailing et qui veulent pas avoir de problème sur leur compte LinkedIn, qui veulent pas avoir de cafouillis avec leurs prospects. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est obligé d'assurer et ça fait partie de l'offre de notre produit. Ouais.
Ok, on va passer à l'équipe dans 30 secondes. Juste, est-ce que tu m'as dit que tu avais dépassé les 3 000 users en BDD? Est-ce que tu peux me donner un peu des chiffres sur ta traction depuis le lancement, etc.?
Ouais, bah, disons que sur 3 mois, ça va être un peu rigolo, mais si tu veux, on est à peu près à 150% de croissance mensuelle. En 3 mois d'activité commerciale, on a atteint l'équilibre financier au mois de novembre.
Ok.
Donc,
Le
c'est
break-even,
une
ouais.
belle performance. Et disons qu'on tourne à peu près à 20% de croissance par semaine en moyenne.
Ok, c'est joli.
Donc, ouais, c'est joli, ouais. Et surtout, tu me demandais tout à l'heure comment on gère notre acquisition. Aujourd'hui, on a un referral qui est énorme. D'après notre tracking, on est très data-driven, donc on traque tout. On a plus de la moitié de nos utilisateurs qui viennent par du referral aujourd'hui, ce qui est vraiment énorme.
Ouais.
Et j'aurai l'occasion d'en parler après aussi, mais ça vient de pas mal de choses, du fait qu'on a un vrai product market fit et du fait qu'on a un support client qui est de haute qualité et qui fait que les utilisateurs, même si parfois ils rencontrent des bugs, il reste chez nous parce que le bug est toujours résolu dans les minutes qui suivent.
Voilà. Et puis même, tu l'as dit, c'est du referral, c'est de l'organique, c'est aussi beaucoup de bouche à oreille. T'as vu quand je suis passé sur Prospectin, t'as bien vu que en un jour, je t'avais déjà apporté mon collaborateur. Tu te souviens?
Ouais,
C'est aussi
c'est ça.
beaucoup ça, parce qu'en fait, le produit convainc énormément. Le produit est simple à utiliser. Pourtant, mon collaborateur, je vais pas te mentir, il n'était pas forcément super enclin à utiliser ça, mais il a vu que, un, bah, lui, il est au courant de tout ça, si tu veux, c'est un chef d'entreprise, donc il sait ce que ça peut lui apporter, mais il a vu que c'était tellement facile à mettre en place et tellement potentiellement efficace, bah, qu'il a été convaincu direct, tu vois. Ok,
C'est ça.
donc maintenant, moi, je vais te demander de me dire comment se compose votre équipe, combien de personnes il y a, qui travaille, quels sont les rôles, la répartition des tâches, les missions, qui est sur le product, qui s'occupe des nouvelles fonctionnalités, bon, voilà, sur le product, est-ce qu'il y a des sales, comment ça se passe le marketing, tout ça, tout ça.
Ouais. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des sales? Il n'y a pas de sales. Il y a certains utilisateurs qui nous le reprochent. En fait, nous, le positionnement, c'est de faire justement l'outil le plus simple possible, de mettre un certain nombre de supports qui sont vidéos, tutoriels, pour que l'outil soit le plus simple à prendre en main et qu'on n'ait pas à faire de démo. Ce qui fait qu'on a un modèle qui est ultra scalable, c'est qu'à partir du moment où tu ne fais pas de démo, tu as des canaux d'acquisition qui sont que digitaux. Et du coup, tu n'as pas de notion de scalabilité sur ton nombre d'utilisateurs entrant chaque semaine. Tu n'as pas besoin de les onboarder à la main. Et donc, c'est vraiment ultra scalable.
Ok.
On est une équipe de 5 personnes et demie, on va dire. On est 4 fondateurs. Il y a 2 développeurs dans l'équipe qui font partie des fondateurs, qui sont de profils assez différents. Il y en a un, c'est un pote de promo qui est vraiment une machine au niveau du code. Et l'autre, c'est le fondateur initial avec qui j'ai commencé le projet Wapi, qui lui est autodidacte. Voilà, il code depuis 15 ans, depuis ses 15 ans. On avait démarré notre école d'ingénieur ensemble. Et si tu veux, il a raté l'école d'ingénieur parce qu'il passait trop de temps à coder la nuit.
Ok.
Donc, lui, il a fait une licence, mais c'est un autodidacte qui est aussi vraiment excellent au niveau du code. Et là, sur la partie business, on va dire qu'on est 3,5. On est 2 aussi fondateurs. Donc, un des associés, c'est mon cousin, donc qui gère la
D'accord.
partie business avec moi. Et une alternante en marketing communication,
Ok.
plus actuellement une stagiaire en stage alterné.
D'accord. Donc on est sur une team d'autodidactes qui se connaît avant. Qui a l'habitude, qui ont déjà eu l'habitude de travailler ensemble, qui se connaissent bien, qui sont proches, on est sur une team comme ça, quoi.
C'est ça, ouais. Vraiment, la team, c'est pour nous, c'est le cœur de ce qu'on est en train de faire. Comme je te dis, on arrive mi-juillet, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur un produit. Et en fait, en littéralement 5 minutes de discussion, on fait un pivot qui est rarement fait en startup, quoi.
Ok.
C'est-à-dire, on abandonne un produit qu'on a développé pendant 2 ans et demi pour passer sur un produit qu'on développe depuis 3 mois et sans regarder derrière, quoi. Ça, c'est vraiment la force de l'équipe. On a une capacité à avancer très très vite.
De toute façon,
Avec
ces
des autodidactes
choses-là, ce genre de choix
qui sont très
fort
efficaces.
de pivot, ça se passe qu'en startup, quoi.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça se passe qu'en startup et ça se passe avec des gens qui sont lucides en fait. C'est-à-dire, on a le mindset entrepreneur de celui qui veut résoudre des problèmes. On n'est pas attaché aux problèmes forcément qu'on résout. On est attaché à prendre du plaisir à ce qu'on fait en fait. Et si tu
Ouais.
veux, quand on vendait Wapi à des campings, à des hôtels, il fallait faire de la vente, il fallait faire de la démo. On avait des clients réticents et c'était pas notre truc. Et nous, on est vraiment en tech et growth hacking. Et là, l'équipe se plaît beaucoup plus dans ce qu'on fait actuellement. Et ça, c'est du bonheur de voir ça.
Ok, bah écoute, vous êtes à Montpellier, comment vous travaillez ensemble? Est-ce que vous êtes au même endroit, au même lieu? Est-ce que vous êtes incubé quelque part? Raconte-moi.
Alors, on est incubé, accéléré, mais dans des structures qui sont spécialisées tourisme, puisque de base, on était dans le tourisme.
Ouais.
Donc aujourd'hui, on est beaucoup moins actif dans ces structures. Et on a des bureaux depuis quasiment un an maintenant,
D'accord.
où on travaille tous ensemble dans un gros espace ouvert et bien sympathique. Et on a la chance en fait d'être dans des bureaux qui nous sont loués par une asso qui sont vraiment super sympas. Et donc, on a des tarifs qui sont vraiment abordables par rapport à l'offre qu'ils proposent. Et même si on est un peu excentré dans Montpellier, ça nous offre un cadre de travail qui est exceptionnel et qui fait qu'on a envie de venir travailler le matin juste pour l'aspect lumineux et le confort qu'on a.
D'accord. Ok, bah ça, c'est cool par contre. Maintenant, tu en as déjà parlé tout à l'heure. Je vais te demander la cible en fait. Tu m'as déjà dit à qui s'adressait l'outil. Est-ce que tu peux vraiment me donner tous les personas, bon, le persona, mais toutes les cibles potentielles de Prospectin? Alors, attention, il y a bon, les personnes susceptibles d'être intéressées par Prospectin. Et si tu veux, moi, il y a quelques mois, je ne savais même pas qu'il y avait des outils d'automatisation LinkedIn en fait. Pourtant, j'étais déjà en activité, donc tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ben en fait, les personnes susceptibles d'être intéressées par Prospectin, c'est littéralement toutes les personnes qui sont sur LinkedIn et qui ont envie de développer leur réseau. Ça fait beaucoup de monde. On a mis pas mal de temps à trouver notre persona principal. On a tapé un petit peu BizDev, cofondateur, startup, recruteur. Et aujourd'hui, ce qui sort, c'est que c'est vraiment la startup. Tout l'écosystème startup, c'est là où on a le plus gros referral et c'est là où on a le plus d'utilisateurs payants parce que c'est eux qui ont un fort besoin de traction, c'est eux qui sont quand même plus à même à utiliser ce genre d'outils. Après, comme tu dis, la force de ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on ne prend pas des parts de marché, on ne prend pas tant de parts de marché que ça aux outils qui existent actuellement, mais on est capable d'en créer parce qu'on a une force de prospection importante sur LinkedIn et donc on adresse des gens qui ne savent même pas que des outils comme ça existent. Mmh. Et en fait, on leur change la vie. C'est ça aussi qui fait le product market fit, c'est que ces gens-là envoient des invitations manuellement tous les jours. Ils ne savent pas qu'il existe de l'automatisation et quand ils découvrent ça, ils ne vont jamais voir la concurrence. Ils restent chez nous, le produit leur convient. Et ouais, c'est ça, on leur change la vie. Enfin, y a vraiment des utilisateurs qui aujourd'hui viennent nous voir et quand ils ont un bug, ils nous disent bah, « je ne peux plus travailler ». Avant, ils faisaient 100, maintenant, ils ne peuvent plus travailler parce qu'on a juste changé leur manière de prospecter.
C'est un game changer.
Donc aujourd'hui, aujourd'hui la cible, c'est vraiment la startup.
Ok.
C'est vraiment l'écosystème startup sur lequel on transforme le mieux et on est principalement basé en France. On a à peu près la moitié de nos utilisateurs qui sont francophones, mais on a la moitié qui est dans le reste du monde.
Alors, tu m'as tué,
je dirais à peu près.
Tu m'as tué ma prochaine question. Vas-y. Alors, mais il y a aucun souci, c'est une bonne transition justement. Moi, j'allais te demander parce que bon, il y a beaucoup d'anglicismes, tous les noms d'outils, même vous, c'est des noms anglais, etc. On peut se poser la question. Et c'est une question que je t'ai posée en off juste avant. C'est est-ce que vous êtes le seul acteur français sur ce marché-là? Donc, j'ai deux questions. Bah déjà celle-ci, à laquelle tu vas pouvoir me répondre. Et ensuite, aujourd'hui, vous vous adressez plus à un marché outre-mer, donc États-Unis, etc., ou vous ciblez l'Europe, en fait? Parce que, in fine, les deux marchés sont intéressants, parce que sur LinkedIn, tout le monde fait la même chose. Mais est-ce que les gens sont plus enclins, plus adaptés et plus propices à utiliser ce genre de service aux States ou ici? Tu vois, vous allez taper qui, taper chez qui?
Alors, il y a pas mal de réponses à mettre dans ta réponse. Donc, la première, c'est qu'il existe d'autres outils français. Je ne les connais pas tous en détail. Je discutais avec le CEO de NeoDeal, qui est vraiment un des concurrents directs sur LinkedIn. Je discutais avec lui. Ouais. Donc, ils sont basés en France. Il y a un autre site qui démarre, je crois qu'il s'appelle jeprospect.fr, qui est aussi un outil d'automatisation pour LinkedIn. Okay. Et je crois qu'il existe un ou deux autres outils. Un outil qui a l'air pas mal, là, qui est en bêta, qui s'appelle la Growth Machine.
Donc
il y a pas mal d'outils d'automatisation français, mais il y a pas mal d'outils d'automatisation sur LinkedIn non français. Mm-hmm. On va pas se mentir, on est sur un marché où il y a peut-être 50 acteurs dans le monde, je pense, okay. Facilement. On en découvre très régulièrement. Donc il y a du monde. D'un point de vue cible, on a, comme je te disais tout à l'heure, à peu près 50% d'utilisateurs qui sont francophones et 50% qui sont à l'étranger et je dirais à peu près 20% qui sont aux US. Au début, on a cherché à adresser tout de suite le monde et le plus large possible. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de personnes anglophones dans l'équipe et que ça nous posait problème à la fois sur le support, à la fois sur la qualité des contenus qu'on créait, sur la qualité de la landing, etc. Ça était moins percutant. Mm-hmm. Et donc, il y a à peu près un mois et demi, on s'est recentré sur le public francophone en se disant qu'il y avait quand même pas mal de parts de marché à aller chercher.
Ouais, y a un gâteau.
Donc c'est pour ça, on était plus sur 30-70 et là on a basculé un peu plus sur du 50 voire 60% francophone.
Okay.
Donc on a bien pivoté là-dessus, mais ça transforme beaucoup mieux et je pense qu'on continuera d'aller adresser le marché étranger, mais il y a encore de la place en France.
Okay. Ouais.
Et d'un point de vue ouverture d'esprit à utiliser ce genre d'outils, on va dire qu'en France il y a un super écosystème growth hacking et startup qui est en train de se créer depuis quelques années. Mmh. Qui eux sont 100% enclins à utiliser ce genre de solution. Et comme peut être la spécialité de la France, il y a pas mal de gens qui sont assez conservateurs. Et quand tu vas taper dans les spécialistes LinkedIn qui ont un peu plus de 45 ans, on va dire, il y a une vraie réticence à utiliser les outils d'automatisation. On se fait un peu cracher dessus, on va pas se mentir. Mm-hmm. Mais je pense que ça va changer en fait, parce qu'ils sont en train de se rendre compte aussi. C'est indispensable. Là, on a un de nos ambassadeurs avec qui j'ai discuté au téléphone la semaine dernière qui me disait, moi, il y a quelques mois, je crachais sur l'automatisation, j'ai découvert votre produit, maintenant je suis un ambassadeur et je suis en train d'expliquer à tous les vieux de la vieille avec qui je travaille qu'il faut qu'ils y passent parce que c'est plus déjà l'automatisation qu'il y avait avant et ça devient un basique.
De toute façon, sur n'importe quel marché, dès qu'il y a un produit, dès qu'il y a quelque chose qui vient changer la façon de faire, plus efficace ou non, il y a toujours l'ancienne génération qui n'est pas habituée et qui, elle, a travaillé dans d'autres circonstances toute leur carrière, qui va gueuler. Ça, c'est classique.
C'est ça. Maintenant, après, il y a une notion de culture, je pense. Parce qu'aux États-Unis, à l'inverse, c'est beaucoup plus admis et les clients américains, je dirais, qui viennent beaucoup plus avertis sur ce genre d'outils, ils savent ce qu'ils viennent chercher, ils connaissent la concurrence, ils demandent les différences, ils connaissent bien. Contrairement en France où on a des gens qui viennent et qui savent pas ce que c'est une note d'invitation sur LinkedIn. Okay. Et on a un vrai travail d'éducation là-dessus. On a plus de novices qui viennent sur le public français que sur le public américain.
D'accord. Bon, maintenant moment business model. Tu vas me dire ton business model, tu vas me dire les prix. Il y a du freemium, il y a de l'abonnement, il y a un abonnement avancé. Je vais te laisser m'expliquer ça.
Ouais, il y a un mode freemium qui est arrivé un peu plus tard. On s'est dit que c'était sympa par rapport au referral de pouvoir proposer une offre gratuite. Donc l'offre gratuite, elle inclut quasiment toutes les fonctionnalités, sauf la partie scénario. Et en fait, la différence, c'est que tu vas pouvoir envoyer que 12 à 15 invitations par jour. Donc en gros, 12 à 15 invites, 12 à 15 messages, 12 à 15 visites et 12 à 15 suivis. Mmh. C'est intéressant si tu es étudiant ou si tu veux développer tranquillement ton activité et ça te permet de vraiment goûter à l'outil et d'y revenir si tu as besoin de l'utiliser à 100% plus tard.
Okay.
Donc c'est un petit pivot qu'on a fait. Au début, on n'avait pas de mode freemium. On a trouvé ça pas mal d'en mettre un et ça nous permet d'avoir pas mal d'active users qui sont aussi des référeurs, donc qui parlent de nous. Ça, c'est vachement intéressant.
Ouais.
Ensuite, on a deux pricing plans actuellement. On en a un qui est à 10€ par mois en annuel, 15€ par mois en mensuel, qui donne accès à toutes les fonctionnalités d'envoi d'invitation, d'envoi de messages, le dashboard, etc. Et en fait, la seule différence avec le plan à 30€ par mois en mensuel et 20€ par mois en annuel, c'est la fonctionnalité scénario, qui en fait est vraiment notre différent. Enfin, d'un point de vue fonctionnalité, c'est notre point différenciant par rapport à la concurrence.
C'est le truc qui fait la vie, quoi.
Et c'est le truc qui fait la différence, ouais. Mm-hmm. Parce que tu n'as plus du tout à t'occuper de faire tes relances, comme j'expliquais tout à l'heure.
Ouais.
Donc, ça, c'est le pricing plan au-dessus, tout simplement.
Du coup, moi, j'ai deux questions. Ma première question, c'est quelle est la transformation du plan basique en plan payant, si tu veux. Alors, aujourd'hui, ça fait 3 mois que vous êtes commercialisé, donc la stat que tu vas me sortir, elle n'est pas définitive et elle n'est peut-être même pas pertinente. Mais j'ai envie de savoir le pourcentage de personnes en gratuit qui passent sur un abonnement payant. Et ensuite, j'ai envie de te demander, dans les deux abonnements actuels, donc celui à 10€ en annuel et celui à 20€, donc où il y a le scénario et l'autre, il n'y a pas, lequel est le plus populaire ?
Ouais, je dirais 50-50 et 50-50. On mesure nos utilisateurs actifs à la semaine, donc ceux qui ont envoyé une action sur LinkedIn avec l'extension dans la semaine, c'est une de nos métriques sur nos active users. Mmh. On a à peu près 450 à 500 active users et on en a à peu près la moitié, un peu plus je dirais maintenant, qui sont quasiment 300, qui sont des utilisateurs payants.
Okay.
Et sur ces 300, alors l'offre avancée, elle est arrivée plus tard par rapport à l'offre pro. Donc l'offre à 10€ par mois, elle existe depuis le début. Les scénarios sont arrivés il y a seulement 3 semaines.
D'accord.
Donc on n'a pas encore des chiffres très précis là-dessus, mais je dirais qu'on est sur du 40-60. 40% d'utilisateurs qui sont sur le plan avancé et qui utilisent les scénarios, et 60% qui sont sur le plan pro.
Ok, alors il faut aussi savoir que les scénarios, donc c'est une super fonctionnalité, c'est simple d'utilisation, mais il y a un vrai travail de com à faire dessus aussi, à le faire connaître et à faire connaître l'utilité de la chose, parce qu'in fine excuse-moi, je te coupe, mais on se retrouve dans des situations où, par exemple, il y a deux, vraiment, pour moi, de mon aspect, avec beaucoup moins de recul que toi, je vois deux utilisateurs possibles. Je vois l'utilisateur qui a juste envie de développer son réseau et d'aller target des cibles pour son réseau, si tu veux. Donc, d'envoyer, donc de se faire des listes différentes et d'aller chercher des personnes. Et tu as l'utilisateur qui est, lui, dans une optique de tunnel, pardon, de conversion, etc., qui, lui, va utiliser le scénario. Tu vois ? Pourtant, dans les scénarios, tu as aussi cet aspect demande quotidien. Mais je suis sûr qu'il y a des users qui s'arrêtent à l'abonnement à 10 euros annuel, pardon, à 10 euros par mois, mais quand tu es en format annuel, parce qu'en fait, tu peux aller target 100 personnes par jour, tu peux envoyer les messages que tu veux, tu as un nombre de listes illimité, tu fais ce que tu veux, en fait. Donc, la différence, les 10 euros, si tu veux, il est juste dans le scénario. Quand je dis juste, c'est une aberration parce que le scénario, c'est une fonctionnalité très puissante, mais il y a un vrai travail de com à faire là-dessus aussi sur la puissance de l'outil, tu vois.
Ouais, c'est clair. Alors, l'avantage, c'est que la période d'essai gratuite que tu as au début inclut les scénarios. Donc, on y fait assez vite goûter aux utilisateurs. Et c'est là que ça transforme.
Période d'une semaine.
Oui, la période d'une semaine ouais. Gratuite.
Et vous envoyez
après,
des codes.
Après, la fonctionnalité.
Ouais, excuse-moi, vous envoyez des codes promo dans la semaine en plus.
Pas dans la semaine, la première semaine, non.
Ah bon
non.
J'en ai eu un. Pourtant, on se connaissait pas.
Si t'en as eu un, c'est que t'es tombé sur la semaine du Black Friday, peut-être.
Ah oui, bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ouais.
Voilà. Oui, sur la semaine du Black Friday, on a fait une offre
okay,
intéressante.
D'accord.
On a eu pas mal de conversions d'ailleurs. C'est ça qui nous a permis d'atteindre l'équilibre financier ce mois-ci, okay. En termes de MRR. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les scénarios, c'est une vraie fonctionnalité avancée. Disons qu'elle sert à tout le monde. Et après, il y en a qui sont juste pas prêts à mettre les 10 euros de plus pour l'avoir. Mm-hmm. Et elle a une petite difficulté technique. Et enfin, en tout cas, il faut comprendre comment ça marche.
Ouais.
Et c'est pas forcément la fonctionnalité la plus simple d'utilisation parce que justement, elle est pas ailleurs. Et quand on a beaucoup d'utilisateurs qui sont novices, au début, ils vont plutôt utiliser les fonctionnalités basiques de connexion et de message. Et en fait, ils vont pas forcément goûter au scénario dans leur semaine d'essai parce que ils sont là pour d'abord tester ce que c'est d'automatiser ces envois d'invitation.
Voilà, ouais.
Et ça leur fait déjà un peu peur.
Ouais.
Donc derrière, ils sont pas forcément prêts à basculer tout de suite sur les scénarios.
Ok, bon. On a bien compris les pricing plans. Alors, tu m'as dit aussi qu'il y avait un pricing pour les entreprises qui allait arriver. Tu en as déjà parlé tout à l'heure. Bon, ça arrivera, on suivra ça. Mais tu peux pas rajouter quelque chose, on est bon ?
Je peux donner le pricing parce que
oui.
Je pense que c'est vachement intéressant pour ceux qui veulent, comme tu disais, il y a ceux qui veulent vraiment développer des funnels. Et du coup, s'ils ont plusieurs comptes LinkedIn dans leur équipe, ils peuvent tout de suite créer des funnels beaucoup plus volumineux en entrée.
Mm-hmm.
Et du coup, pour expliquer rapidement, voilà, donc tu auras une messagerie centralisée, donc tu pourras gérer tous les messages de tes comptes. Tu pourras setup les campagnes pour tous tes comptes, copier une campagne à un autre et ajouter autant de comptes que tu veux. Donc tu as un pricing qui sera à 120 euros par mois pour 3 comptes.
Okay.
Et après, tu pourras ajouter des comptes avec un pricing qui est dégressif en fonction du nombre de comptes que tu veux ajouter. Et pareil, tu vas pouvoir comparer les performances de tes différents comptes. Nous, on fait ça depuis longtemps et on s'est rendu compte qu'un persona, un profil plutôt cinquantenaire homme transforme beaucoup mieux qu'un jeune de 25 ans.
D'accord.
Tu vois, sur un profil BizDev, par exemple.
Ok, d'accord. Ok, d'accord.
Donc tu vas pouvoir mesurer ça et peut-être optimiser les photos de profil des comptes pour essayer d'uniformiser, on va dire, tes taux de transformation.
Il y a un truc à jouer, il faut jouer là-dessus, quoi. Bon, comme
ouais,
bon,
ouais.
Faut jouer là-dessus, comme sur les SAV, sur les services clients, c'est toujours mieux de mettre en signature le nom d'une femme, de mettre Muriel ou de mettre Bruno ou n'importe quoi. Tu vois,
c'est toujours c'est ça.
C'est un peu, on est un peu là-dedans, quoi. Hein?
Ouais, c'est ça.
Okay.
C'est ça. Bah, disons que c'est ça, sauf que ça peut paraître des fois un peu contre-intuitif. C'est sur LinkedIn, étant un réseau professionnel, un homme âgé transforme un peu mieux qu'un jeune homme, même si ce qu'on a noté aussi, c'est qu'une jeune fille transforme mieux qu'un jeune homme.
Okay.
On va pas se mentir.
D'accord. Ok, bah, non, mais c'est des stats intéressantes, tu vois, carrément. Du coup, bon, tu me l'as dit tout à l'heure, on va passer un peu sur la partie. Bon, tu m'en as vraiment un peu parlé tout à l'heure. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez fait. Tu m'as dit que c'est de l'organique, c'est du referral, c'est du bouche à oreille. Je l'ai constaté. Mais aujourd'hui, si vous devez communiquer, est-ce que vous êtes allé sur Product Hunt? Est-ce que vous êtes allé sur Indie Hackers? Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites encore en temps réel, si tu veux?
Ouais, alors, c'est vrai que c'est assez particulier ce qu'on a fait en termes d'acquisition. C'est qu'on a exploité essentiellement un seul canal qui était LinkedIn.
Ouais.
On a créé beaucoup de comptes, beaucoup de faux comptes, pour être transparent, qui nous ont permis d'apporter pas mal de trafic pendant un moment. Il y en a pas mal qui se sont fait bannir au final. On a toujours un certain nombre de comptes qui prospectent, donc ça c'est assez efficace.
Okay.
Beaucoup de referrals et en fait beaucoup de referrals. On a un programme d'affiliation qui est vachement intéressant, qui offre 50% à nos ambassadeurs. Donc
okay.
On a beaucoup de coachs qui justement cherchait ce produit parce que typiquement Benoît Dubos, c'est un de nos meilleurs ambassadeurs. En fait, ils avaient besoin de proposer de l'automatisation à leurs clients et il n'y avait pas d'outils simples qu'ils pouvaient leur mettre en avant. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des outils comme DocSoup, mais c'est très dur à un client novice de PME, directeur commercial d'une PME, de lui présenter DocSoup et de lui dire « tu vas mettre ton équipe de commerciaux sur cet outil
». Ah oui.
Parce que ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas fiable, ce n'est pas simple d'utilisation. Et en fait, on leur a résolu un problème majeur en leur proposant un outil qu'ils peuvent proposer à leurs clients. Et donc, on a beaucoup d'ambassadeurs qui mettent en avant l'outil.
Okay.
Et ils ont une commission qui est vachement intéressante. On fait 50-50. Okay. Donc, on traque ce qu'ils nous envoient et on fait 50-50. Et après, on a fait un petit lancement Product Hunt complètement inopiné. Notre alternante, elle ne connaissait pas Product Hunt. Son outil de SEO lui dit « Ah, vous devriez mettre un backlink sur Product Hunt ». Donc, elle nous crée une fiche Product Hunt. Et un vendredi matin, on commence à avoir des gens qui arrivent sur le support et qui nous disent « Ah, ben, je viens de Product Hunt. J'ai vu votre produit, ça a l'air cool ». Oula, on dit, oula, Product Hunt, c'est bizarre, on ne s'est pas lancé dessus. On avait prévu de le faire un peu plus tard. Et on va voir, on voit qu'on est top 3 Product Hunt à ce moment-là.
Combien d'upvotes ?
On a eu 350 upvotes, okay, je crois,
mal.
Un truc comme ça.
Pas mal du tout, ouais.
Ouais, c'est pas mal, mais au final, on a fini que 7e, je crois, de la journée.
Ouais, il y en a qui finissent à 800.
Ouais, après, ça nous a apporté un petit pic du trafic. On a fait plus 100 téléchargements ce jour-là. C'est toujours sympa.
Ouais, c'est toujours carrément sympa. Et Indie Hackers, c'était pas les fouiner.
On n'est pas encore allé fouiner. Je t'avoue qu'on a encore envie d'améliorer le produit pour aller chercher ça à plus grande échelle et principalement l'offre entreprise et les synchronisations CRM qui vont venir,
okay.
qui vont permettre de faire plus facilement du multicanal. Et dès qu'on aura ça, je pense qu'on ira se lancer sur Hacker News aussi, peut-être sur AppSumo, on verra.
Ouais, il y a encore plein de réseaux à aller choper, quoi.
Ouais.
Ok.
Ouais, ouais.
Dis-moi, on a fini un peu sur tout, sur la partie produit, sur la partie équipe, la partie business model, on a un peu parlé de tout. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, si tu veux, un peu là-dessus, avant qu'on passe aux questions de la fin, comme d'hab?
Ouais, j'ajouterais bien dans ce que nous on fait, parce qu'on on est une petite équipe, mais on est en train de développer une vraie culture d'entreprise autour de ça. Et il y a des points assez majeurs dont j'aimerais bien parler, parce que vu que t'as, c'est
bah
un
peu
une communauté d'entrepreneurs qui écoutent la podcast, déjà nous on est vraiment des doueurs, on réfléchit très peu à ce qu'on fait, on est très dans l'opérationnel, donc ça peut être un défaut parfois, mais on exécute très vite. Donc on exécute très vite, on mesure. Et on voit si ça marche ou pas. Et ça, je pense, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs devraient avoir en tête, parce que tu prends le MVP de chaque test que tu veux mettre en place. C'est-à-dire que tu as le MVP de produit, mais tu as aussi un MVP de test de growth hacking. Mm-hmm. Typiquement, tu dis, tu penses que ton acquisition, tu vas la faire sur LinkedIn. Crée pas 50 comptes tout de suite. Teste mm-hmm. avec un compte, traque tes liens, mesure ce que ça t'apporte comme trafic et tu vois si ça peut être proportionnel au nombre de comptes que tu crées. Et là, tu vas itérer ton process de growth. Et ça, c'est vraiment un truc que nous, on met en place de manière systématique et qui marche très
ouais.
bien. Comme je disais, on est très data-driven, donc il y a un truc que j'aime bien raconter parce qu'on en rit beaucoup et que ça met vraiment l'ambiance dans l'équipe. On a une enceinte qui joue des sons en fonction de ce que font les utilisateurs.
Okay.
Donc dès que quelqu'un s'inscrit, on a un gong de méditation qui est joué, c'est super fort. Après, on a un certain nombre de sons en fonction de l'activation de l'utilisateur.
Un peu comme sur Twitch, en fait, en fonction de l'activité des viewers, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, c'est ça, on a un son d'Age of Empire 2 quand tu exportes tes prospects, okay. un autre son quand tu envoies ta première action, et évidemment, on a des sons pour les paiements, et chaque paiement a un son différent.
Ouais.
Et donc ça donne lieu à des choses très cocasses, parce que des fois d'un seul coup l'enceinte est à fond et t'as un énorme WeHo champion parce qu'il y a un utilisateur qui vient de payer un plan avancé en annuel et ça met l'ambiance,
ouais,
et c'est hyper motivant, en fait.
Ça met l'ambiance.
Ouais, c'est hyper motivant parce qu'il y a des jours où tu sais, tu vois, des fois on sait qu'il y a un ambassadeur qui fait une formation juste parce que dans 10 minutes on a 15 gongs et
ouais.
on sait ce qui se passe, quoi. On peut un peu mesurer nos pics d'activité.
Tu l'as mis en place avec quoi, ça, pour jouer des sons automatiquement?
Alors ça, c'est un peu le problème de l'équipe. Dans ce que je vais raconter, c'est qu'on fait beaucoup de choses nous-mêmes.
Okay,
tout notre tracking, il est fait nous-mêmes. Et en fait, on l'a développé nous-mêmes. On a une machine qui tourne juste pour faire tourner des comptes LinkedIn.
D'accord.
Et dessus, on lui a mis un petit webhook qui tourne et qui est branché sur une enceinte. Et dès qu'il y a un utilisateur qui a ajouté en base de données, il y a une requête qui est faite au webhook et qui lui dit « Ah, il y a un nouvel utilisateur ». Et lui, il joue le gong.
Okay. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit quand tu as dit que vous étiez des doueurs. C'est que moi, plus globalement, en fait, j'ai envie de confirmer à 100%, mais que même quand on a une idée de produit, une idée de startup, t'as parlé de MVP, etc., mais que quand on a un produit, il ne faut pas façonner le produit en fonction de nos convictions personnelles. Ça, c'est moi quelque chose qu'on m'a déjà dit déjà il y a plusieurs années. C'est j'ai un produit, il est prêt à être lancé, mais je me dis « Ah, mais non, il n'est pas prêt, je préfère peaufiner ». Ça, pour moi, je ne sais pas, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que dès qu'on a le produit avec les caractéristiques essentielles, bon, qui est le concept du MVP, il faut le lancer sur le marché parce que le produit, il faut qu'il se prenne toutes les claques possibles pour qu'il ait in fine la bonne tête. tu vois. Et à partir de ces retours marché, de ces retours consommateurs, de ces feedbacks-là, tu sors ton 2.0. Parce qu'en fait, in fine, si tu gardes ton 1.0 pour toi, pour ton équipe, que tu fais ça en interne et que tu dis, vas-y, mon 1.0, il est prêt, ben en fait, non. Et tu auras juste perdu tout le temps, les jours, les mois, les semaines, tu auras perdu du temps, en fait. Dès que tu es prêt, tu vas sur le marché et ensuite, tu reviens.
Je pense que ça, c'est même quelque chose qui est assez admis avec l'écosystème startup qu'il y a actuellement en France. C'est quelque chose qui est quand même bien enseigné aux entrepreneurs et qui est bien admis. Mais ça va même plus loin. C'est-à-dire que là, par exemple, nous, on a deux produits en stock qu'on est en train de préparer. Il y en a un qui va s'appeler InPod, qui sortira courant janvier en bêta gratuite, qui permettra d'augmenter la portée des posts LinkedIn. Ouais. Donc avec un système d'engagement, je rentre en détail.
Un peu comme l'MPod.
Exactement pareil que l'MPod, okay. Mais avec un fonctionnement un petit peu différent sur la notion de groupe, mais sinon ce sera le même principe. Okay. Et un autre outil sur lequel on travaille qui a pour objectif de faire un prospecting, mais sur du cross-canal, donc avec la possibilité d'enrichir tes contacts, d'aller les contacter à la fois sur Twitter, sur LinkedIn, par email, etc. Okay. Et si tu veux, ce produit-là, on a une idée assez précise en tête de ce qu'on veut faire, mais avant même de développer les premières lignes de code, on va établir une landing page, on va prendre deux comptes LinkedIn qui prospectent, on va les mettre à aller contacter des growth hackers, des biz devs pour les envoyer vers la landing page qui va présenter l'idée qu'on a du produit. Ouais. Et on va voir combien de gens s'inscrivent sur la bêta et quels sont les retours dans les discussions par LinkedIn. Et on va construire le produit avant même qu'il existe sur ça. Et je pense que c'est majeur, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout de product market fit sur ce produit, mais on va vite le savoir. Parce qu'il y en a qui vont nous dire « Ah, mais ça existe déjà. Ah, mais non, moi, ce sera trop compliqué à utiliser, etc. » Donc, on va avoir un certain nombre de retours qui vont nous permettre de développer le produit avec déjà l'idée de la key feature, on va dire, qui va être développée en première et qui sera très simple et qui sera en bêta gratuite. Et il ne fera pas grand-chose, mais le but, c'est d'aller le plus vite possible sur le marché.
Ok, super. Moi, j'ai hâte de voir ça. Et puis, ça a l'air cool. Vraiment, ça a l'air cool. Bah écoute, maintenant, petite question de la fin. Est-ce que vous faites de la veille? Vous avez mis quoi en place pour surveiller un peu tout ça? Même si vous connaissez tous les acteurs du marché, mais bon, nouvelle législation LinkedIn, nouvelles règles, tu vois?
Alors nous, on est plutôt les hackers dans notre cave. On fait très peu de veille. Okay. Je connais même pas tous les acteurs. Dis-toi, j'ai encore découvert un nouvel acteur aujourd'hui. Je découvre des concurrents toutes les semaines, quoi. Enfin, okay. C'est pas important pour nous parce que, comme je te disais, déjà on crée des parts de marché. On est plus à l'écoute de nos utilisateurs. On utilise Intercom qui est un chat pour discuter avec nos utilisateurs qui est vraiment notre. C'est pas un chatbot parce que c'est un chat où nous on répond derrière et c'est un de nos.
Ouais, comme Chris, dans notre culture, etc. Quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Et le but, c'est de répondre pour nous le plus vite possible. On ne fait pas de démo, donc c'est là qu'on onboard nos utilisateurs et qu'on fait tomber toutes les réticences. On a une cinquantaine de GIFs qui expliquent des fonctionnalités en 5 secondes, ce qui nous permet de répondre super vite, de manière super quali aux questions qui reviennent. Ouais. Et ça, c'est vraiment top.
Okay.
Et pourquoi j'ai dit ça?
On parlait de la veille.
C'est là-dessus qu'on construit le produit et on fait assez peu de veille finalement.
Okay.
On essaie de mettre en place notre expertise, on regarde un peu ce que font nos ambassadeurs, on repartage du contenu à eux et du coup, ouais, assez peu de veille sur ce qui se fait en fait.
D'accord.
En tout cas, sur l'autre secteur.
Bah, écoute. Deuxième question, c'est ton ressenti sur l'entrepreneuriat. Je m'explique, bon, je dis tout le temps ça, mais en gros, avant que même tu lances ta première boîte là, de ce que tu allais vendre au camping, etc. Est-ce que tu idéalisais cette vie d'entrepreneur et tu te disais ça va se passer comme ça, ça va être ci, ça va être ça, ça va être cool, je vais faire ci, je vais faire ça comme ça. Et maintenant que tu es dedans, que tu es dans le jus, que tu es dans ta deuxième boîte, que tu vois vraiment les choses, que tu vis vraiment les choses, qu'est-ce que tu trouves comme delta en fait entre ces deux visions-là? Tu vois ce que je veux dire?
Ah, moi je pense que... Ouais, je vois très bien. Moi je pense que je suis l'exemple de l'entrepreneur qui est arrivé avec le plus... comment dire, avec le moins de savoir possible sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'étais en école d'ingénieur, c'est ma troisième année. J'ai dit, ouais, on va développer un produit, c'est super, on va le vendre super cher, les gens ils vont l'acheter tout de suite, il n'y aura pas de contraintes juridiques, on va 100% du chiffre d'affaires va arriver dans notre poche. Enfin, le monde des bisounours. Okay. Et en fait, t'apprends après, au fur et à mesure. Donc clairement, maintenant, ça plus rien à voir. On a rencontré beaucoup, beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat. On a fait beaucoup de pitch. On a été super bien accompagné par l'incubateur, accélérateur.
Okay.
Donc maintenant, ça a plus rien à voir. Et maintenant, tu sais qu'il faut aller chercher du cash le plus vite possible sur ton revenu, faire un produit le plus simple possible, le plus vite possible. Et que sur un euro que tu gagnes, si tu arrives à mettre 10 centimes dans ta poche, c'est incroyable.
C'est déjà pas mal sur un euro.
Mais c'est pas le but.
Ok. Dis-moi, moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi aujourd'hui les possibilités de développement pour 2020?
Ouais, comme je te disais, nous, on pense que Prospecting va arriver à la fin de ses fonctionnalités d'ici 3-4 mois de développement, parce qu'on veut garder un outil simple. Et du coup, l'idée, c'est plutôt pour nous d'aller développer d'autres outils qui vont continuer de démocratiser le growth hacking. C'est vraiment ça ce qu'on veut faire, c'est donner accès à des outils qui sont aujourd'hui complexes autour de l'automatisation, de les rendre simples et de donner accès à ces outils-là à des biz dev et des gens qui sont pas, qui ont pas, qui sont pas des growth hackers en
Ok,
fait.
toi tu veux
Parce
faire.
que la communauté growth hacker, c'est peut-être 5000 personnes en France et nous, on veut proposer les outils qu'ils utilisent aujourd'hui et les séquences qu'ils font, les rendre simples.
Ouais.
Donc, il y aura les deux produits dont j'ai parlé.
Ok.
Qui vont être développés courant 2020. Et je pense que si on a un product market fit sur ces deux produits-là, on ira chercher des fonds fin d'année 2020 pour accélérer le développement.
Ok, vous avez tenté une levée sur ça, quoi.
On verra. L'idée, c'est pour nous, c'est pas de passer trop de temps à aller chercher des fonds et plutôt de se concentrer sur le produit et le product market fit.
Ouais.
Et si on a des opportunités et qu'on sait que ça peut accélérer notre croissance, alors on prendra les opportunités, je pense.
Ça marche. En fait, tu me fais penser à le podcast que j'ai fait avec Naker.io, qui, eux, si tu veux mettre de la 3D dans les sites internet, donc ils créent vraiment de l'interactivité. Genre, par exemple, pendant que tu remplis ton formulaire en background, au lieu d'avoir une image fixe, tu as un truc en 3D qui vient se modeler. Plus tu remplis des champs, plus ton truc il se modélise, pardon.
Ok.
Tu vois? Et ils font plein de trucs comme ça,
Ouais.
Naker Form, Naker Bag, ils font des backgrounds animés, bref. Et en gros, parce que eux, en fait, si tu veux, ils se la jouent un peu Adobe, tu vois, dans le sens où ils veulent créer toute une collection de services qui vient implémenter la 3D dans le web. Vous, c'est un peu toute une collection de fonctionnalités, pardon, de services, Prospecting plus X plus X2, qui vont faire qu'in fine, tu as un truc entier sur le gros hacking, pour différents besoins, pour différentes choses, tu vois?
Exactement,
Voilà.
exactement, c'est l'idée.
Ça m'a fait penser à ça. Ok, bah c'est cool, c'est pertinent alors. Dis-moi, bah écoute, j'ai fini. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est maintenant.
Ouais, un petit message de motivation pour les entrepreneurs, c'est que c'est les montagnes russes et que enfin, il faut persévérer et que si vous voulez vraiment entreprendre, c'est pas l'idée qui compte, c'est vraiment l'équipe et votre capacité à implémenter l'idée. Et plus
L'exécution.
vous êtes, plus vous êtes, enfin, ta capacité d'exécution et plus vous êtes ouvert d'esprit à ce qu'on vous propose et plus vous êtes ouvert à écouter ce qu'on vous dit. Voilà, soyez une éponge et faites en fonction de vos convictions personnelles. Mais soyez une éponge, absorbez tout ce qui passe parce que c'est là-dessus que vous allez construire ce que vous avez à faire.
Super message, merci. Écoutez, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage passionné d'entrepreneuriat ou à vous-même ou à toutes les personnes désireuses, curieuses d'entrepreneuriat que vous pouvez connaître qui sont susceptibles d'être intéressées par ce podcast. Dis-moi où on peut retrouver Prospecting partout. Donne-moi tout.
Partout. Si tu fais une recherche Google, tu nous trouves,
Ouais.
heureusement. Prospecting.fr, vous trouvez le site, vous trouvez l'extension. Et après, si vous voulez nous contacter, vous pouvez chercher toi nom, Georges,
Ouais, de toute façon, je mettrai
T-O-I-N-O-N.
tout. Je mettrai ton LinkedIn, je mettrai le
Voilà, bah, il y
site.
aura tous les liens. Et vous pouvez me contacter. Moi, je suis hyper ouvert à échanger avec des entrepreneurs, avec des potentiels utilisateurs. C'est un plaisir de pouvoir partager.
Voilà, bah c'est super. N'hésitez pas à suivre Two Step sur Facebook, sur LinkedIn, à me retrouver sur LinkedIn aussi, pareil, pour échanger, à retrouver tous les podcasts sur les plateformes de streaming ou sur twostep.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Il y a un petit problème avec le flux RSS, mais ça va revenir. Et puis même Google Podcast et même 10 autres plateformes. Et à laisser 5 belles étoiles si vous avez aimé le podcast. À suivre Prospecting vraiment. De toute façon, l'outil, comme tu l'as dit, d'ici 3-4 mois, il est fini. Donc bah encore mieux, quoi, si tu veux. Mais même à commencer tout de suite sur le produit, quoi, parce que vraiment, vraiment, si aujourd'hui vous automatisez des choses sur LinkedIn sans Prospecting, moi je vous le dis et j'ai même pas d'avantage, mais vraiment, ça a fait la différence pour moi direct. Direct. Et je l'ai donné déjà à plusieurs personnes, tu as pu le voir, toi non. Et toutes les personnes ont eu la même conclusion que moi. Donc vraiment, moi perso, je suis convaincu par le produit et je suis pas payé pour le dire. Donc voilà. Merci à toi non, en tout cas, pour le podcast, c'était super. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode.
Et merci à toi.
Bah écoute, je
À
t'en...
bientôt.
À bientôt, au revoir.